Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Il y a quelqu'un qui est descendu des bureaux en courant, il m'a dit il faut vite sortir. Il y a quelqu'un qui a un fusil en haut qui se promène dans les bureaux. Ça a été la panique.
Deux femmes, une conseillère de Pôle emploi et la DRH d'une entreprise de carrosserie abattue ce matin dans la Drôme et en Ardèche.
Le tireur a été interpellé, il avait travaillé dans l'entreprise en question.
Et il pourrait également avoir abattu une autre DRH en Alsace avant-hier. Toutes les infos dans un instant avec Jean-Luc Bougeon.
L'inquiétude du ministre de la Santé Olivier Véran autour de la propagation des variants en France. Nous voulons, dit-il, éviter une épidémie dans l'épidémie.
Et alors que la perspective d'un nouveau confinement se rapproche, le Premier ministre promet le dialogue pour désamorcer les critiques et un débat au Parlement, mais seulement après les possibles annonces d'un reconfinement.
Au sommaire également, 2020, année noire pour le tourisme. 11 fois plus de pertes qu'en 2009. La crise menace plus de 100 millions d'emplois.
Et puis c'est le deuxième tableau le plus cher après le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Un Botticelli vendu aujourd'hui plus de 92 millions de dollars. La Bourse de Paris a terminé en net rebond, plus 0,93% à 5510 points.
Un coup d'œil au temps avec la prudence toujours de mise. Les vigilances sont étendues. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien. Oui, nous avons actuellement 12 départements placés en vigilance orange. Le temps sera dans les prochaines heures de plus en plus agité avec de fortes pluies, des vents violents sur l'ensemble du pays. Les températures restent, elles, très douces avec plus de 20 degrés demain après-midi dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et à la une donc ce soir, le parcours meurtrier de cet homme qui ce matin a tué deux femmes dans la Drôme et en Ardèche. La première est une conseillère de Pôle emploi, la seconde la DRH d'une entreprise dans laquelle il avait travaillé.
Jean-Luc Bougeon, on le soupçonne également, c'est une information qui nous parvient ce soir, d'un troisième assassinat.
Oui, celui d'une autre DRH retrouvée tuée par balle dans sa voiture sur le parking de son entreprise mardi soir près de Colmar en Alsace. Ce qui trouble les enquêteurs, c'est le lieu de ce meurtre, hein, l'est de la France, d'où est originaire le tueur de Valence, mais aussi la présence remarquée d'une voiture japonaise de location rouge, le même modèle que celui utilisé ce matin à Valence. Enfin, il y a évidemment le fait qu'il s'agit aussi d'une DRH, elle aussi tuée par arme à feu, autant d'éléments qui font que les enquêteurs de Colmar et de Valence se sont parlé ces dernières heures. Alors concernant la Valence, eh bien il semble qu'à Pôle emploi, il n'ait pas spécifiquement visé la directrice d'équipe. Il a fait feu sur elle parce qu'elle était présente à l'accueil après avoir fait mine de s'intéresser aux offres d'emploi. Il n'était pas suivi dans cette agence puisqu'il habitait Nancy. Il y avait simplement été inscrit il y a 8 ans environ. En revanche, la situation semble différente dans l'entreprise. Faux environnement dans laquelle il s'est rendu dans un second temps, puisque d'abord, il y a travaillé 18 mois entre 2008 et 2010 et que l'équipe de direction, DRH y compris, était déjà là lors de son passage. Il connaissait donc cette femme, mère de famille de 51 ans, sur qui il a fait feu. Peut-être parce qu'il avait été licencié de cette entreprise, même si pour l'instant on n'en a pas la confirmation. Quels avaient été ses rapports avec cette DRH, on ne le sait pas encore. En tout cas, dans la société, c'était le choc tout à l'heure, raconte Philippe Fayat, l'un des représentants du personnel.
Il y a quelqu'un qui est descendu des bureaux en courant, il m'a dit « il faut vite sortir ». Il y a quelqu'un qui a un fusil en haut qui se promène dans les bureaux. On est sortis tous derrière, avant on est partis chacun d'un côté en courant, et voilà, ça a été la panique. S'il y a eu licenciement, c'est cette direction-là qui a licencié ce monsieur. C'était cette responsable des ressources humaines, et c'était notre directeur, voilà. Et je pense que ces gens-là, ils doivent quand même avoir quelque chose sur le cœur envers la direction qui prend des décisions de licencier des gens.
Voilà, un délégué syndical qui ne se souvient pas précisément de cet homme de 45 ans, ingénieur, sans activité depuis plusieurs mois et visiblement aguerri au tir sportif.
Merci Jean-Luc Bougeon à Valence pour Europe 1. C'est donc une information Europe 1 qu'on vous donne ce soir. Une seconde DRH aurait pu être tuée par le même homme.
L'ensemble des agences Pôle emploi resteront en tout cas fermées demain et une minute de silence sera observée par les agents. Il faudra encore patienter avant de savoir si nous allons de nouveau être confinés. La décision ne sera pas prise avant ce week-end, au plus tôt, mais en écoutant le ministre de la Santé égrener des chiffres cet après-midi, on voit mal comment on va pouvoir y échapper.
Oui, Olivier Véran qui a reconnu que le couvre-feu n'était pas la panacée, mais que s'il n'y avait pas de couvre-feu aujourd'hui, nous ne serions pas sur un plateau, mais en pleine vague épidémique.
Le ministre qui a également confirmé que les variants circulent déjà activement chez nous.
Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. Ces variants, je les considère un peu comme des nouveaux virus, appelant de nouvelles mesures pour nous protéger. Les Français font preuve depuis près d'un an d'un remarquable esprit de solidarité et de responsabilité. Nous devons tenir encore.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui semble donc préparer les esprits à un nouveau confinement, pendant que le Premier ministre, lui, multiplie les consultations.
Jean Castex, oui, a reçu aujourd'hui les représentants des élus, les présidents de groupes au Parlement et qui s'entretiendra demain avec les partenaires sociaux.
Jean-Rémy Baudot, a-t-on une idée de la tonalité des discussions ?
Eh bien, officiellement, ces discussions, elles sont organisées pour créer du dialogue et du consensus. L'exécutif jure que ça n'est pas de l'affichage, ce qu'il écoute. Mais parmi les participants, personne n'a de doute. Une annonce de confinement, ça ne serait qu'une question de jour. Dans ce contexte, les présidents de groupe ont tenté cet après-midi de faire valoir leurs propositions devant le Premier ministre. Des élus qui, semble-t-il, ont été en partie entendus, puisque le Premier ministre a accepté un débat puis un vote au Parlement avant une possible entrée en vigueur d'un confinement. Un vote encadré par l'article 50-1 de la Constitution, vote donc purement consultatif, qui interviendrait selon toute vraisemblance en début de semaine. Petit à petit, on comprend donc comment la séquence politique des prochains jours va s'organiser, avec une prise de décision ce week-end par l'Élysée, une annonce, un débat, puis une mise en application des nouvelles restrictions la semaine prochaine. Ce qu'on ignore encore, c'est jusqu'où ces restrictions iront. Quid des écoles ? C'est évidemment le point et la question que tout le monde se pose. Les ministères continuent encore d'abreuver l'Élysée de notes et de propositions. Les dernières enquêtes sur les chiffres du Covid seront connues ce week-end. Une ministre me confiait tout à l'heure, tous nos choix auront des inconvénients. C'est vraiment un exercice d'équilibriste.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
On s'attendait à une année noire pour le tourisme en 2020. Eh bien, on a aujourd'hui les chiffres et c'est pire encore que ce que l'on redoutait.
Oui, bonsoir Clément Le Saffre.
Bonsoir.
La chute du tourisme mondial est historique.
Oui, le chiffre donne le tournis à 1300 milliards de dollars de pertes en un an pour le secteur selon les calculs de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est l'équivalent, rendez-vous compte, du PIB d'un pays comme l'Espagne. Ces pertes sont 11 fois supérieures à celles enregistrées lors de la crise économique de 2009 qui était jusqu'ici la pire année jamais enregistrée. La raison, elle est simple, à cause de la pandémie, le nombre d'arrivées de touristes a chuté de 74% cette année par rapport à 2019. Alors évidemment, l'Europe est très impactée avec 500 millions de touristes qui manquent à l'appel. La France a perdu elle seule 61 milliards d'euros de recettes touristiques en 2020. Et il faut ajouter à ça les pertes colossales pour nos entreprises, hein, 3,6 milliards d'euros pour Air France, 5 milliards pour la SNCF. Et l'avenir ne s'annonce pas plus radieux. Hein. L'Organisation mondiale du tourisme souligne que la perspective d'un rebond en 2021 s'éloigne et qu'il faudra 2 à 4 ans pour retrouver le niveau de 2019, avec une conséquence dramatique. 100 à 120 millions d'emplois sont menacés dans le monde.
Précision signée Clément Le Saffre du service éco d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec cette situation à laquelle on a, c'est vrai, tous été confrontés un jour. Un document officiel, incompréhensible, pour cause de jargon administratif hermétique.
Oui, vous savez, c'est ce document que l'on découvre dans sa boîte aux lettres ou que l'on vous demande de remplir au guichet avec des mots comme co-contractant, défaillant ou de manière irréfragable, avancement d'oirie. Alors, c'est presque humiliant hein, pour celui qui ne comprend pas de quoi on parle. Eh bien, on a une bonne nouvelle ce soir.
Oui, une plateforme a été lancée aujourd'hui et elle devrait nous aider, vous aider à y voir plus clair.
Ça s'appelle Service Public Plus. C'est une plateforme qui est adossée au site servicepublic.fr. Et l'idée eh bien, c'est de signaler les formulations complexes, obscures, pour qu'elles soient corrigées rapidement. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir.
Visiblement, ça pourrait être bien, bien utile.
Hein. Oui, tenez, Isabelle Julien, par exemple, que comprenez-vous si l'URSSAF vous envoyait cette lettre ?
J'ai remis vos bordereaux comme à l'initiale, mais vous devez refaire le bloc de régularisation en renseignant le montant de l'assiette qui correspond à la cotisation qui reste pour le moment en débit.
Vous... Elle serait bien embêtée. Ah,
voilà, hein. Vous ne comprenez pas grand-chose, moi non plus, Christophe non plus.
C'est une grande phrase, avec peu de ponctuation, donc c'est compliqué, il faut couper l'éléphant en morceaux pour arriver à le digérer. Donc ça serait utile effectivement d'avoir une plateforme qui puisse permettre d'avoir un éclairage supplémentaire.
En vous aidant à décrypter ce type de document administratif bien trop compliqué, Sarah pourrait par exemple soumettre une feuille de soins de la Sécu pour y voir plus clair.
En fait, il y a juste une liste de montants. Je ne sais pas dans les trois cases lequel est remboursé, lequel est la base de remboursement, lequel doit être payé. Enfin, voilà, on ne prend rien, quoi.
Il y a aussi des conseils pour éviter des erreurs dans vos démarches pour la retraite. En cas de déménagement, on en a tous besoin. Un éclairage aussi sur les nombreux acronymes. Un coup de pouce plus que bienvenu pour Néla.
Bon, dans tous les documents des impôts, vous voyez partout RAS.
RAS, c'est rien à signaler plutôt, oui.
Au bout d'un moment, vous finissez par comprendre en recoupant, mais bon, c'était pas naturel retenu à la source RAS.
Dans le contexte de la pandémie, les questions liées aux démarches en matière de santé devraient particulièrement être examinées, bien sûr.
Et bien, on espère que cette plateforme va nous changer la vie. Ça s'appelle donc Service Public Plus. Merci Hélène Terzian.
RAS Hélène Terzian, merci à vous. Les arrivées se succèdent dans le Vendée Globe.
Ah oui, il y en a eu trois ces dernières heures. Boris Herrmann arrivé cinquième après une fin de course assez terrible hein, pour le skipper allemand qui a percuté un bateau de pêche hier soir alors qu'il pouvait encore espérer décrocher la victoire. Belle sixième place pour Damien Seguin. Vous savez, c'est ce skipper né sans main gauche, premier marin handisport à boucler ce Vendée Globe, suivi de près par l'Italien Pedotté. Et puis on attend là dans la soirée Jean Le Cam.
Bah oui, le doyen Jean Le Cam qui nous a fait vibrer aussi pendant ce tour du monde en solitaire. Un tableau attribué au maître de la Renaissance italienne Botticelli, mis aux enchères aujourd'hui par la maison Sotheby's.
Sotheby's, oui, c'est Sotheby's. Le portrait du jeune homme tenant un médaillon estimé à 80 millions de dollars. Diane Shinoda, il a finalement été vendu 92 millions de dollars, c'est un peu plus de 76 millions d'euros, et en tout cas c'est un événement sur le marché de l'art.
Ladies and gentlemen, we now move on to the star of the sale, Sandro Botticelli's masterpiece.
Oui, c'était le clou, hein, la star de cette vente chez Sotheby's, ce chef-d'œuvre de Botticelli, comme le souligne le commissaire-priseur au début des enchères. Portrait d'un jeune homme aux cheveux longs qui tient dans ses mains un petit tableau comme une icône, joyau de la Renaissance, datant de 1480, parfaitement conservé, estimé à 80 millions de dollars. Les enchères ont démarré à 70 millions et le tableau a finalement été adjugé 80 millions.
For $80 million. Thank you, ladies and gentlemen. We can now safely say that the Botticelli is the most valuable old master painting ever sold in a Sotheby's auction.
Avec les frais, ce Botticelli est parti à plus de 92 millions de dollars, soit plus de 76 millions d'euros. Vous l'avez dit, c'est considérable, mais on est loin du record détenu par le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vendu il y a 3 ans à 450 millions de dollars. Mais ce Botticelli devient quand même le deuxième tableau ancien le plus cher au monde après le Salvator Mundi, record jusque-là détenu par le Massacre des Innocents de Rubens. On ne sait pas encore qui l'a acheté, mais je peux vous dire que le milliardaire américain qui vient de vendre son Botticelli a fait une affaire, car il y a presque 40 ans, il ne l'avait acheté, si j'ose dire, qu'1 300 000 $.
Effectivement, vendu donc 92 millions de dollars. Merci, Diane Shinoda.
Et puis James Bond va-t-il devoir retourner des scènes pour cause de téléphone obsolète?
Mourir peut attendre, vous savez, c'est le nouveau James Bond qui doit sortir en France en octobre avec Daniel Craig. Sauf que le film a tellement été reporté pour cause de Covid que les produits Nokia placés dans ce film sont déjà dépassés. Or 007, bien sûr, doit avoir le must du must. Et la marque partenaire, elle exige qu'il ait son tout dernier modèle. Il paraît que ce serait le cas aussi pour Adidas ou bien pour la marque de montre Omega.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal 19h. Prudence en Corse, Anissa, des vigilances sont en cours.
Oui, les deux départements corses sont placés en vigilance orange pour vent fort. Ça va souffler très fort demain, des vents tempétueux à plus de 140-150 km/h sur l'île de Beauté. Soyez prudents, le temps est très agité hein, sur une grande partie du pays demain. Donc c'est en Corse que ça sera le plus violent, mais attention, dans l'Est, nous avons aussi plusieurs départements placés en vigilance orange, déjà dans les Alpes, hein, même scénario qu'en Corse. 4 départements placés en vigilance orange avalanche, des vigilances pluie-inondation parce que les pluies sont importantes et puis le vent qui souffle à plus de 110 km/h sur les sommets, un risque important donc qui va accentuer les avalanches. Nous avons également le Jura, la Haute-Saône, le Doubs concerné par ces vigilances pluie-inondation. Partout ailleurs, demain, nous avons une nouvelle perturbation qui va traverser le pays avec des averses pour toutes les régions sauf le littoral méditerranéen. Du Languedoc à la Côte d'Azur, là le temps reste sec. Mais le vent va souffler fort et la tramontane se lève bien demain.
Les
températures, elles restent douces avec 6 à 12 degrés demain matin et puis 10 à 21 degrés demain après-midi. C'est très doux pour la saison, 10 pour Annecy, 12 à Paris et Strasbourg, 15 à Lyon, 17 à Marseille et 21 la maximale pour Bastia sous la tempête.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.